RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, en direct de Malocène au pied du géant de Provence. Le géant de Provence qui a offert aujourd'hui au Tour de France eh bien son premier succès français. Magnifique victoire de Valentin Paris-Peintre qui s'impose en costaud au sommet, au Ventoux, en battant notamment Ben Hilly. On l'attendait depuis tellement longtemps, cette victoire d'étape française. On en est ravis évidemment. On va revivre ça tout à l'heure avec Jérôme Coppel, Jérôme Pinault, Pierre-Yves Leroux et notre invité exceptionnel ce soir, Dominique Sarriès, le patron de l'équipe à G2R. Alors, on dit encore Décathlon à G2R la mondiale pendant quelques semaines, oui. Dominique.
Bonsoir. Oui, bien entendu. Le contrat, il va jusqu'au 31 décembre. Donc, hier, c'était, on va dire, une fenêtre ou une aparté avec la notoriété du Tour de France. Mais on reste d'une façon très brillante jusqu'au 31 décembre, Décathlon et G2R la mondiale.
Très bien. Et à partir du 1er janvier, ça changera d'appellation. Ça s'appellera Décathlon CMA CGM. On va parler de cette arrivée d'un sponsor incroyable qui va vous permettre eh bien de tutoyer les sommets du cyclisme mondial et notamment les grandes équipes UAE, Visma. Et on espère évidemment avec une réussite exceptionnelle dans les années à venir. Tout d'abord, Dominique, un petit mot sur la victoire de Valentin Paré-Peintre qui a fait toutes ses classes en quelque sorte au sein de l'écurie AG2R la mondiale, à Chambéry d'abord, avant de rejoindre AG2R. J'imagine qu'il y a un peu d'émotion quand même pour de voir ce garçon formé chez vous, quoi.
Écoutez, je pense que d'abord on doit le féliciter. Je l'ai fait de suite après en lui envoyant un message. C'est aussi une histoire de famille. On a le grand frère, on a la petite sœur Maëva qui vient nous faire, je dirais, officier de chef de cuisine.
Ah, c'est votre chef
qui fait nutritionniste en plus, des chefs de cuisine sur les stages, par exemple aux Arcs. Et le papa aussi qui vient faire des prestations dans l'équipe. On est très contents parce qu'effectivement c'est un garçon brillant, talentueux. C'est une opportunité, je pense, pour un garçon comme ça d'officier dans une équipe étrangère. On a des relations toujours aussi constantes, quasiment le matin. Il n'y a pas un matin, on ne se salue pas. Et vraiment, ça touche au cœur. Toute l'équipe était, ouais, était heureuse.
On a vu le tweet de l'équipe à G2R. Chapeau.
Très sympa.
Chapeau, ouais. Valo.
Beau geste. Ouais, pas toutes les équipes le font. Hein,
quand tu parles d'une équipe, normalement, ça peut être un peu tendu. Mais
ça peut, même si ce n'est pas tendu, elles ne le font pas forcément. Donc, ouais. C'est un beau geste.
Bon, maintenant, il faut aller le récupérer, Dominique. Faut aller le piquer aux Belges, pas possible ça. Un grimpeur français, c'est quand même une denrée rare, même s'il y en a d'autres. Mais...
Mon silence pourrait penser qu'on est soit indifférent ou soit qu'on l'étudie, mais en tout cas, quand les coureurs chez nous, pour des raisons personnelles ou en tout cas liées à l'équipe, ont une autre destination, je tiens à ce que les relations soient excellentes. On le voit par exemple aussi avec Ben O'Connor ou avec d'autres coureurs, c'est hyper important parce que c'est un monde de passion, ils sont jeunes. Je pense qu'il avait envie aussi de s'émanciper et non tomber dans un créneau où c'était pas simple pour pouvoir lui proposer ce qu'il cherchait. Et en tout cas, la porte est grande ouverte et il le sait.
Ouais. Voilà. Le message est passé. Il va falloir qu'il s'accroche à Soudal Quickstep pour le garder. Alors, c'est une victoire d'un coureur français, mais dans une équipe étrangère, Dominique. Il va falloir que ça change, ça, parce que ça fait un moment qu'on n'a plus de victoire d'un coureur français dans une équipe française.
Je vais vous dire qu'on y travaille tous les jours. Et c'est pour ça qu'en tout cas, ça a une vraie valeur et il faut être toujours honnête et humble quand on en parle. Il y a un niveau de compétitivité et une intensité depuis le départ, vous le relatez si bien, que c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile et on doit être honnête dans la façon dont on se situe aujourd'hui. On a aussi une évolution sur une année de consolidation. On a un garçon comme Félix Gall qui redevient aujourd'hui, on va dire, dans un niveau, il l'a démontré la semaine dernière, et il est 7e au classement général. C'est sûr qu'on aimerait gagner une étape, il en reste quelques-unes, je pense qu'on ne va pas non plus, je dirais, s'épargner. Mais le niveau est tellement intense, vous avez vu encore ce matin, à quelle vitesse, ça a roulé la bagarre. C'est difficile de se dire, est-ce qu'on prend l'échappée ou pas? Est-ce que derrière, on consolide et on considère que dans la montée sur le Ventoux, ben on va faire quelque chose. Félix aujourd'hui était un peu moins bien. Il y a eu un genre de petit coup de chaud avant le chalet Reynard. Mais voilà, le tour est vraiment le plus haut niveau de compétitivité. Et voilà, on y travaille. Donc croyez-moi que ça va évoluer.
Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les équipes majeures sont toutes des équipes internationales. Il n'y a plus vraiment d'équipes françaises, italiennes, espagnoles.
Bah, des équipes italiennes, il n'y en a plus.
Il n'y en a plus du tout. Là, au moins,
exactement.
C'est, oui. C'est une certitude. Mais chez UAE, je ne sais pas combien de nationalités ils ont, Jérôme.
Je ne sais pas le nombre de nationalités, mais c'est très international, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, UAE, c'est peut-être, elle a été créée sur les restes de la Lamprée. Elle a quand même une connotation italienne. Elle n'est pas italienne du tout, mais elle a quand même une forte connotation italienne. Ça a été le cas pendant un temps chez Quickstep à l'époque où tu y étais aussi. Mais c'est vrai que l'Italie n'a plus d'équipe. Mais de toute façon, il n'y a aucune équipe, qu'elle soit française, espagnole,
belge,
où 100% des coureurs sont de la nationalité.
Ça a été le cas.
Moi, quand j'étais chez Source Jason, par exemple, les deux premières années, c'était 100% une équipe française, avec que des coureurs français. Mais maintenant, tu ne peux plus dans le cyclisme d'aujourd'hui. Tu es obligé de t'internationaliser, tu es obligé d'aller chercher les meilleurs coureurs, qu'ils soient belges, italiens, polonais ou n'importe quoi. Il te faut les meilleurs coureurs. Donc toi, tu crées le meilleur effectif et tu ne regardes pas si tu as 18 français, 12, 15, tu veux la meilleure équipe possible au départ de chaque course.
Ouais. Après, pour se projeter, pour le public français, c'est vrai, c'est quand même bien d'avoir un fond de coureurs français, parce qu'on le voit, les Français sont tellement fans et dingues de Tour de France qu'il faut quand même garder un fond.
De toute façon, d'abord, on en aura toujours. Mm-hmm. Après, c'est vrai que si on fait aujourd'hui le parallèle, on a Decathlon, et à venir, on va dire, c'est MACGM. Ce sont deux entreprises qui sont présentes quasiment dans plus de 160 pays. Avec d'un côté, pour Decathlon, 100 et quelques mille salariés, de l'autre côté, 160 000. Donc, il est certain qu'on est une entreprise, on est une équipe française qui veut briller à l'international. Pourquoi ? Parce qu'on veut aussi embarquer l'ensemble des collaborateurs. Et que ce soit un coureur américain, ou un coureur français, ou un coureur belge, la nationalité, aujourd'hui, elle importe peu. Mm-hmm. Parce que le jour où il devient champion, en fait, c'est lui qui est l'ambassadeur de l'équipe et de ses marques.
Ouais, puis on a aussi ce parallèle avec les grands clubs de football. Hein, aujourd'hui,
bien sûr,
on a un club français qui a gagné la Champions League.
Deux joueurs français.
C'est pas en grande partie grâce aux joueurs français, mais ils sont très bons. Aujourd'hui, l'UAE domine le Tour de France collectivement. C'est 8 coureurs au départ, 8 nationalités. Et on va chercher les meilleurs. Mais par contre, le partenaire qui vous signe le contrat comme CMA-CGM aujourd'hui, lui, il veut faire briller sa marque et son équipe. Peu importe le coureur. C'est là où, quand on manage une équipe comme le fait Dominique, il faut faire les choix, non pas en fonction parfois de son cœur, mais en fonction des desiderata aussi et des objectifs du partenaire. Aujourd'hui, clairement, Félix Gall dans le top 10, il peut faire 5, il peut faire 6. On ne peut pas aller partout. Le Tour de France ne permet pas d'être hasardeux. On a un plan.
Quand on joue le général.
Et aujourd'hui, quand on applique une stratégie autour d'un coureur pour le classement général, force est de constater qu'on ne peut pas être partout et donc les étapes, ça passe après. Et quand le leader est autrichien, il porte quand même l'étendard de Decathlon à G2R. Et ça, les partenaires viennent dans le vélo pour ça. Si demain on leur dit, bah oui, mais on en a mis un devant parce que le public français veut, lui, il s'en fiche du public français. Le partenaire, ce qu'il veut, c'est mettre le plus haut possible ses coureurs.
Et ses couleurs. Alors, Dominique, parlez-nous un peu de l'arrivée de CMA-CGM. Ça a fait beaucoup de bruit hier lors de la journée de repos. Ce grand groupe qui vient donc se joindre à Decathlon et qui va vous permettre de changer d'étage, en quelque sorte, de franchir un gap incroyable et de changer de division. 40 millions d'euros, ce sera donc le budget annoncé de cette équipe à partir de l'année prochaine. Ça vous permet de jouer dans la cour des grands. Ça va vous permettre.
Alors, pour vous dire déjà une analyse, c'est que c'est vraiment une étape décisive. Dans tout le travail qui a été mené les dernières années, dans le plan stratégique qu'on a construit, l'étape d'avoir un partenaire, d'autant plus, on va dire, français, mais rayonnant à l'international, attaché aussi aux valeurs du groupe qui est Decathlon, mais qui fait partie de la famille Mugier. Je pense que ça a été un des éléments clés dans le travail qu'on a mené pour qu'en tout cas on se dise c'est par là qu'il faut consolider les fondations et surtout c'est la question aussi de la durée. Parce que un engagement,
c'est ça,
c'est 5 ans. Les montants, vous parlez de 40 millions, c'est il y a un an de ça en arrière chez un de vos confrères, j'expliquais que on a un bon budget. Qui est aujourd'hui aux alentours de 28 millions d'euros, et que pour 30 ou 40% de plus, si on regarde les budgets de Visma, par exemple, ou ceux d'Ineos, qui sont entre 40 et 48, En tout cas, ils font, ils deviennent compétitifs, ils peuvent gagner. Donc, la marche supplémentaire peut permettre à une équipe, si en tout cas elle se donne les moyens et le temps, d'arriver un jour à gagner des courses. Et c'est sûr qu'on a évolué, on sait encore où on se situe, on est assez lucide et on voit très bien que le contexte n'est pas non plus simple. Mais je suis assez confiant avec ce qu'on a dessiné, ce qu'on a validé avec les partenaires au niveau du plan stratégique, que dans les prochains mois, les prochaines années, on va performer, on gagnera des courses. Et que oui, l'objectif, parce que c'est un objectif, que si aujourd'hui on a le président de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, qui vient dans le projet, comme on s'est dit, on ne s'interdit pas un jour de vouloir gagner le Tour de France. Voilà, donc, il faut du temps. Très souvent, quand on en a parlé tous ensemble, on s'est dit, c'est pas une baguette magique, donc il va nous falloir sans doute 2, 3, 5 ans, bah, il faut le faire. Bon, alors, entre-temps, on a aussi, nous, échafaudé des axes stratégiques avec une évolution aussi du recrutement, parce qu'il y a quand même des belles courses que vous
bien
connaissez.
Sûr. Avant de gagner le Tour de France, ils font gagner d'autres. Hein, et puis, celui sur lequel vous misez, on va en parler, qui s'appelle Paul Sexas, n'a que 18 ans. Donc, avant qu'il soit en âge de remporter le Tour de France, ben, on vous souhaite de gagner plein d'autres grandes courses.
Et lié à cette pépite, en tout cas, parce que ça vient aussi de la création de la New Gen, venant des juniors, et après, je dirais, des garçons qui sont en Conti, et après qui rentrent à World Tour, ça a été aussi une décision de bien protéger, donner du temps à des talents comme Paul Sexas ou d'autres qu'on a chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de stratégie pour se dire, on va aller travailler sur du sprint, on va aller travailler sur des classiques, on va aller viser des monuments, tout en continuant, de façon parallèle, à construire le projet pour le Tour de France 2028-2030 avec Paul Sexas. Parce qu'il va lui falloir du temps. C'est un garçon qui est talentueux. On a aussi des garçons qui sont talentueux, mais lui, au niveau en tout cas des cases, elles sont cochées. Donc il a des éléments particuliers. Il y a des détecteurs qui nous font voir en tout cas que voilà, dont les curseurs sont là. Mais on doit aussi être bien en phase que on doit prendre des décisions. Comme le disait tout à l'heure Jérôme, c'est quand vous venez sur Tour de France, on n'a pas de baguette magique. Vous voyez le niveau comme il est élevé. Quelquefois, c'est sûr qu'on préférerait gagner une étape. On est passé 2-3 fois à côté, parce que ben, vous prenez l'échappée, vous ne la prenez pas. Vous faites un contre-la-montre. Deux talents, on va dire, qu'on a chez nous, qui est d'abord Bruno. Bruno
fait
un chrono
quatrième à Caen, hein.
À 2 secondes du troisième, ouais. Un chrono extraordinaire. Ce n'était pas l'ADN de l'équipe, il y a quelques années de ça, ou il y a 2 ans. Et on perd notre garçon qui est encore plus talentueux et puissant, qui est Stéphane Wissiger. Donc, sans doute qu'on refait pas le monde, hein, parce que beaucoup d'équipes aussi ont perdu leur leader. Ouais, il faut continuer à travailler, il faut accepter, il faut savoir féliciter. Moi, j'ai toujours été du principe que quand vous avez des personnes qui sont supérieures, ben, vous envoyez un petit message et vous félicitez les gens parce que ben, ça prouve qu'ils sont meilleurs que vous.
Bon, on a vu, alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de la série Netflix qui vous dépeint quand même sous un jour un peu rude quand même. Donc vous dites, vous félicitez les coureurs, vous êtes toujours comme ça. Alors c'est qui le vrai Dominique Sarias ? Celui de la série ou celui dont vous parlez aujourd'hui ?
En tout cas, personnellement, ou en tout cas mes proches et aussi mes collaborateurs, ça ne me correspond pas. Et ça ne correspond pas non plus aux valeurs de mes partenaires et de nos partenaires. J'ai pas eu le temps, en toute honnêteté, de visionner.
Vous n'avez pas regardé encore ?
Non, pas encore, et c'est vrai. Mais les retours qu'on a pu me faire, et vous savez que je viens d'un monde qui, pendant plus de 40 ans, m'a assouvi ma passion.
Le monde du sport automobile, hein.
Si on fait un petit flashback, un drive to survive, avec la qualité de Netflix, la façon de scénariser les choses, ils auraient presque pu faire battre 2 coureurs qui, en fait, étaient juste ennemis quand ils mettaient un casque sur la tête. Donc, ils ont fait à peu près pareil sur la saison 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand nous, on a fait le Tour de France, avec un Tour de France qui nous a été difficile, et quand eux sont venus nous voir pour la partie du scénario, c'était pour démontrer l'évolution liée à l'hyper-professionnalisation du cyclisme. Et donc, depuis le mois de septembre 2023, ils sont venus dans toutes les phases qu'on a eues, de signature du contrat, du reveal, de l'annonce du partenariat en décembre 2023, et aussi sur l'évolution de l'équipe. Parce que l'équipe, elle a évolué. Elle a évolué parce qu'il y avait un desiderata de passer, je dirais, d'une situation mono-managériale à une équipe structurée. Et la façon dont vous parlez, la façon dont vous êtes équipé, vous avez très bien, de façon cravatée. Et si demain, vous posez une question à quelqu'un et que derrière, vous faites apparaître le visage de quelqu'un d'autre, en l'occurrence, eh ben, je peux être le méchant, mais je l'accepte, mais c'est pas moi. Je me reconnais pas. J'assume, parce que j'ai eu une mission qui m'a été donnée par la direction générale de la Jeux des Arts mondiales. Aujourd'hui, on voit que plusieurs éléments structurels des axes stratégiques se mettent en place et qu'au demeurant, il y a eu, entre guillemets, si on pourrait dire, des dommages, mais ce n'est pas moi qui les ai,
provoqués. Voilà. Ouais, ouais. Après, ce n'est pas pour venir au secours de Dominique, mais...
Donc, je pense qu'il n'a pas besoin qu'on vienne
son secours. À l'intérieur,
hein. Il se défend tout seul.
À l'intérieur de cela, on fait aussi des personnages. Moi, j'aurais adoré voir le Fait Vert le jour où ça ne marchait pas et qu'ils le suivent. Mais à un moment donné... pas être gentil tout le temps.
Bien sûr, quand on est patron. Hein.
Et quand, voilà, c'est ça. Et quand il faut prendre des décisions, il faut les prendre. Et quand on a la pression d'au-dessus avec des vraies stratégies et que ça ne marche pas, il faut le dire.
J'aurais bien aimé qu'ils viennent te voir un peu Netflix quand tu étais patron d'équipe.
Écoute, j'étais trop petit, mais ça ne les intéressait pas.
Pierre-Yves.
Bon, on a évoqué forcément les objectifs, vous le disiez, Tour de France, et c'est une possibilité dans les années à venir. On rappelle quand même qu'une course d'une semaine, il n'y a pas eu de victoire française depuis 2007, donc ça sera peut-être déjà un objectif. Et on parlait de Paul Sexas, il y a aussi un Tour de l'avenir prochainement. Je regardais le palmarès, le dernier Français vainqueur, c'est 2016, un certain David Gaudu. Donc là aussi, ça commence à remonter. C'est un premier objectif pour Paul Sexas.
Ça fait partie d'un des objectifs. Il a commencé sa saison en World Tour au mois de janvier-février. Une étape marquante, c'est en tout cas c'est le Critérium du Dauphiné. C'est le seul jeune de 18 ans qui termine dans les 10 premiers d'une course de 7 ou 8 jours, 8e. Donc effectivement...
Qui performe dans le contre-la-montre. Voilà,
et quelques mois auparavant, il est quand même champion du monde junior. Faut pas l'oublier, même si derrière il a pas pu le porter puisque il est pas allé en Conti. Donc oui, les prochaines courses que Paul va faire, et on l'a vu même sur le contre-la-montre lors du Critérium Dauphiné, bon, il était là. En plus, avec des critères que nous on connaît à l'intérieur qui auraient pu permettre de se retrouver dans le top 5. Donc là maintenant, on va travailler sur ça. Mais le besoin de Paul, le besoin de ce que nous on veut donner à Paul, c'est qu'en fait, il faut qu'il prenne de l'expérience, il faut qu'il se nourrisse. Le Dauphiné, je peux vous donner une confidentialité, un aveu. J'étais le seul à vouloir qu'il fasse le Dauphiné avec lui. Paul et moi, on voulait qu'il fasse le Dauphiné. Avec les conséquences, avec la précaution d'usage, c'est de ne pas le brûler. Il ne faut pas le cramer, il faut vraiment faire le travail correctement. Et il va être aussi porté demain à, je dirais, apprendre. Il faut qu'il apprenne, parce qu'il y a des échéances qui vont arriver. Il a une volonté. Et donc, il faut aussi que quand vous faites un programme, et certains autour de la table ont été coureurs, moi, je souhaite que le coureur s'exprime. La direction de la performance, la direction sportive, elle peut dire, tiens, on a fait un calendrier. Aujourd'hui, je souhaite que les coureurs soient aussi partie prenante dans un calendrier, de ne pas lui dire, tiens, voilà, on t'a fait ton calendrier. Donc, pour répondre, oui, on a maintenant, je dirais, des vrais objectifs. On prépare les choses le plus professionnellement possible. Et à partir de l'an prochain, Paul va encore continuer.
Un premier grand tour dès l'an prochain ?
C'est une vraie question, on ne l'a pas statué.
T'as encore 19 ans ?
Je vous écoute, je vous lis même quelqu'un qui m'a porté ma carrière et qui m'a donné cette passion seconde qui est le cyclisme, qui est Bernard Hinault. Moi, personnellement, je suis favorable pour qu'il fasse le Tour de France. Parce que j'entends, si vous voulez...
D'accord.
Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, et c'est pas un scoop, c'est pourquoi ? C'est que j'entends dire, mais non, c'est mieux qu'il fasse la Vuelta. La Vuelta, il y a 3 semaines d'écart. Certes, c'est sans doute pas le même parcours, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut lui donner de l'expérience, si demain on veut lui donner une échéance de 28 à 30, une expérience d'un tour, vous voyez, cette année, on a un garçon comme Bastien Tronchon qui fait le tour. De tout ce qu'on a pu lui expliquer, des stages en altitude, la formation qu'on lui a donnée, en fait, il me dit, Dominique, j'aurais jamais pu comprendre et vivre ce que j'ai vécu. Et c'est dur. Sa troisième semaine, elle est dure. Aujourd'hui, il a fait un très bon travail pour amener, on va dire, Félix Gall au début, et bien placé sur les routes étroites. Mais si vous ne faites pas, vous ne prendrez pas de l'expérience. Et surtout, dans le projet qu'on a l'an prochain sur le Tour, il va être protégé.
Ah bon ? Il y a un projet pour le prochain sur le Tour.
Oui, il y a un projet.
En plus, vous avez une astuce toute simple. Ça part de Barcelone, vous pouvez lui dire que c'est la Vuelta.
C'est exactement ça. Je devais dire ça à mon équipe.
De toute façon, on ne devient pas vainqueur du Tour d'un coup de baguette magique en une année. Mais Jérôme, si
l'objectif, on l'a compris, c'est de gagner un jour le Tour de France avec Paul Sexas, c'est pas en passant par la Vuelta ou par le Giro. Il n'y a rien...
Tu nous en parlais hier.
Hier soir, je vous disais, Moi, j'aimerais voir Paul Sexas au départ du Tour de France 2026. Et c'est pas le brûler. Moi, j'aime pas de dire, oh, faut pas aller trop vite, on va les cramer. S'il a le moteur qu'il a, il sera pas brûlé en faisant le Tour de France. Il va être protégé. Oui, on va pas attendre dans 2026 que Paul Sexas soit sur le podium.
On va pas lui mettre trop de pression.
Mais c'est ce que Dominique vient de dire avec Tronchon. C'est que si tu ne viens pas sur le Tour de France, tu ne peux pas savoir ce que c'est. T'as beau aller faire un Giro qui dure 3 semaines, une Vuelta qui dure 3 semaines, ce n'est pas le Tour de France. Regardez le monde qu'il y avait dans le Mont Ventoux. Bah, allez, où tu veux en Italie, où tu veux en Espagne, t'auras jamais ça. La vitesse à laquelle ça roule avant l'école, etc., t'as que ça que sur le Tour de France. C'est la seule course au monde, le Tour de France, où 100% des coureurs au départ sont à 100% de leur forme. Il n'y a pas une autre course dans le monde. La Vuelta, t'en as la moitié qui ne veulent pas être là, l'autre tiers qui prépare les championnats du monde et un tiers qui veulent être bien. Le Giro, t'en as qui ne veulent pas y aller, mais ils sont obligés, mais il va faire mauvais, etc. Le Tour de France, c'est pas pour rien que c'est la plus grande course du monde, que c'est celle qui roule le plus vite, parce que tout le monde veut y participer et tout le monde arrive ici à 100% de sa forme. Si Paul, le talent qu'il a, veut gagner le Tour, plus vite il va venir mettre ses roues sur les routes du Tour de France, plus vite il va emmagasiner de la confiance et de l'expérience, et plus vite il sera performant. C'est pas compliqué.
Il y a deux éléments en plus, c'est-à-dire que pour imaginer la complexité du Tour de France, on dit toujours la Vuelta, t'es dans le final à 20 bornes. Le Giro, t'es dans le final à 40 bornes. Le Tour, t'es dans le final à 100 bornes. L'intensité de la course, elle est décuplée.
C'est tu multiplies par deux l'intensité. Tous les jours, le Tour de France.
Et la pression, parce que tout le monde parle de ça. Mais la pression, un tel champion, s'il l'est, et on est volontiers, on va croire qu'il l'est, parce qu'on a vu son talent. Ça va avec le personnage. Ce sont des gens à part entière. Tu parlais de Bernard Hinault, c'est un être à part. Pogacar est un être à part. Il saura gérer tout ça. De toute façon, il n'a pas le choix. S'il veut aller là où il doit aller, cette pression-là, il va la gérer. Et il va même être hermétique à ça, parce que lui, ce qu'il aime, c'est faire du vélo. Et plus ils sont jeunes, et plus ils sont hermétiques à tout cela. C'est plutôt plus tard, quand il va être là au rendez-vous pour aller chercher l'objectif. Là, effectivement, mais il aura tellement acquis d'expérience par le passé que finalement, ça deviendra comme une évidence. Et moi, je suis tout à fait OK avec le fait que cramer quelqu'un, ça n'existe pas. On entend tellement...
On a souvent j'en ai fait ça beaucoup dans le sport français.
Mais si tu pètes le moteur, c'est que tu ne l'avais pas pour atteindre les objectifs fixés.
Je pense
c'est pas plus compliqué que ça.
Vous avez raison. Je pense qu'avec la façon dont maintenant les équipes sont structurées, la préparation, les stages en altitude, le suivi qu'on a au niveau des datas, on est aussi à même de réguler Paul pour éviter qu'on arrive à un seuil de limite. Sans doute que la troisième semaine, il pourra la faire d'une façon, on va dire, un peu moins exposée. Mais l'objectif, c'est qu'il fasse les 3 semaines et qu'à la fin du tour, tout ce que vous venez de dire, en tout cas, il l'ait vécu. Et ce qu'il aura vécu sur le tour de l'année 2027, il arrivera avec une expérience supplémentaire.
L'interrogation d'un certain nombre d'anciens grands champions avec qui on peut
parle de nous, là.
Discuter, entre autres, mais d'autres aussi, qui ont parfois gagné le tour, c'est de se dire... On sait que maintenant, les coureurs arrivent de plus en plus jeunes. Oui. Quelle est sa marge de progression? Est-ce qu'il n'est pas déjà très haut dans ses capacités?
Difficile, ça.
Voilà. C'est un peu cette interrogation-là qu'ont beaucoup d'anciens coureurs.
Il faut savoir aussi donner, je dirais, la place aux gens qui ont la compétence. On a un directeur de la performance qui est Jean-Baptiste Quiclet. Derrière, la partie data, aujourd'hui, est vraiment importante. Son seuil de progression, il va être de 18, sans doute, jusqu'à 25 ou 26 ans. C'est certain qu'il va progresser en volume, en maturité, en endurance,
technique,
morphologie. Donc voilà. Donc, mais si on est sur un plan à 3 ou 5 ans, et c'est en plus sa demande à lui. Sa demande à lui, quand j'échange avec lui, il veut apprendre, il veut, comme il a dit, il veut se surprendre. Parce que si on rentrait dans un schéma stéréotype de ce que font les jeunes quand ils arrivent en World Tour, et bien en fait, ça ne marcherait pas. Parce qu'au bout d'un moment, il va pas être en phase.
Il va se lasser.
C'est ça.
De pas freiner un gamin qui est hyper, hyper talentueux à partir du moment où il y a la compétence autour de lui pour le guider, mais laissez-le faire. C'est encore plus dommageable et je pense que ça limiterait sa marge de progression que de le frustrer.
Bien sûr.
Mais on a de telles attentes. Moi, c'est ça. La seule inquiétude que j'ai, c'est qu'on a de telles attentes. La France attend un champion depuis Bernard Hinault. Les médias sont tous là. Vous posez les questions. Sexas, comment un gamin de 18 ans va supporter ça?
Il faut qu'on le protège. Parce que quand vous faites état de deux points, il y a un point qui est aussi important et même sans doute primordial, c'est les médias. Et tant mieux, vous êtes là et nous, on a besoin de vous. Et nos partenaires ont besoin de ce rayonnement, mais il faut aussi qu'on le protège des médias. Quelquefois, avec les équipes chez nous, la partie communication, presse ou digitale, on restreint ces interventions.
Je sais, j'ai demandé à l'avoir plusieurs fois. Voilà, c'est on m'a toujours ri au
nez. Mais non. Donc, et il faut aussi que Paul arrive à garder une certaine sérénité avec les pieds sur terre, parce qu'il le sait, c'est un garçon qui est hyper intelligent, il est conscient de tout le travail. Donc aujourd'hui, voilà, il faut, on a une feuille de route, c'est une vraie ambition. Je pense que chez nous, pour différentes raisons, Paris-Roubaix par exemple, avec, Décathlon, avec Van Driessel, c'est une des deuxièmes cibles. Mais il y a tellement d'autres très belles courses que vous connaissez, que vous avez fait, Milan-San Remo. Il y a d'autres très belles courses aujourd'hui.
Le Tour des Flandres qui est tout près de Lille.
Par exemple. Donc voilà, on va aussi s'appliquer là-dessus. Et on va aussi s'appliquer parce que ces coureurs-là peuvent aussi venir compléter, une très bonne équipe pour le Tour de France. Parce que ces coureurs-là sont aussi compétents pour faire le Tour de France.
L'exemple d'aujourd'hui est le parfait exemple. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est Valentin Paré-Pin gagne au sommet du Mont Ventoux. Pourquoi ? C'est un jeune coureur français avec qui on pourrait avoir aussi mettre énormément de pression. Mais Valentin, il gagne aujourd'hui. Je mets ma main à couper parce que Tim Merlier a gagné deux fois et Kevin Pouladj a gagné une fois. Si on a un gamin
il a été protégé médiatiquement, Valentin, parce qu'on attendait peut-être un peu moins de lui qu'un Paul Sexa.
Il a été protégé, moins exposé.
Ce que je veux dire, c'est que si Paul vient sur le Tour l'an prochain, par exemple, si on arrive à lire entre les lignes, il y aura très certainement une équipe capable de gagner beaucoup d'étapes. Et plus vite l'équipe gagnera de l'étape, et plus on détachera de responsabilité de Paul. Et dans ces états, et dans ces équipes-là où ça gagne beaucoup, c'est plus facile d'être un peu à l'abri de tout cela. Parce que l'équipe, elle gagne. La pression, certes médiatique, mais sur une équipe qui ne serait pas capable d'aligner des bonnes performances, alors certes, tout de suite, on va se tourner vers la... Et ça, c'est naturel par les médias, Dominique, mais aussi en interne.
Oui, exactement.
C'est-à-dire que chaque membre du staff dans une équipe cycliste, tous passionnés qu'ils sont, plus les étapes passent, tant que t'as pas gagné, je l'ai vécu chez Quickstep, et c'était Chavanel, tu fais quoi? Et Cavendish, vous faites quoi? C'était à chaque fois la même chose. Quand on gagne souvent, le petit jeune, il va tranquille.
Merci beaucoup Dominique d'être venu nous rendre visite. On vous souhaite bonne chance et on souhaite surtout que vous ayez beaucoup de réussite et que vous l'ameniez au sommet de l'Olympe, au sommet de ce Tour de France dans les années à venir. Il y aura d'autres choses avant évidemment avec un sprinter qui arrive dans quelques mois. Le nom est annoncé.
Il reste des étapes là.
Et puis bien sûr, c'est pas fini. Un top 5 pour Félix,
c'est atteignable. Il y a quand même des coureurs devant qui sont aussi...
Il y a un petit Français devant.
Oui, entre autres. Il y a Kevin Vauclin qui fait un super tour. Il faut le féliciter aussi, c'est pareil. C'est ce que je fais très souvent aux côtés de Manu Hubert. On n'est pas trop loin. On est à une 20 ou une 30 de Kevin. Donc, je pense qu'après-demain et jeudi, vendredi, Félix, qui connaît bien le secteur parce qu'ils ont passé quelques semaines au-dessus des arcs.
Sur les terres.
Ça lui rappelle de bons souvenirs.
Il faut que tous les éléments soient réunis. Hein. Vous voyez, ce matin, il n'était pas bien. Donc, malgré ça, il a fait un bon retour et il a fait une belle fin d'étape.
C'est sûr, si c'était sa journée la moins bien du tour, tu peux être assuré. Alors, ça va bien se passer la dernière semaine.
Voilà, donc, et puis après, il y a des étapes aussi. Par exemple, demain ou
samedi,
parce qu'on les a un peu contraints aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on les a contraints parce que ça fourmillait, mais il fallait protéger, on va dire, Félix Gall jusqu'au bas du Mont Ventoux. Demain, ils vont y aller.
Et puis, il faut qu'Aurélien égalise.
Ah oui, en plus, il faut qu'Aurélien pas se faire taper par le petit frère, c'est impossible. Merci Dominique Sarriès d'être venu nous rendre visite. On vous souhaite une bonne fin de tour et plein de belles choses à l'avenir. 19h28 sur RMC, l'After Tour revient dans un instant. On va revenir sur la victoire de Valentin Paré-Pinte. On va entendre la réaction de son papa qui était en ligne avec Valentin. Sitôt la ligne d'arrivée franchie tout à l'heure, c'était un moment d'émotion incroyable dans l'intégral Tour. À tout de suite.
RMC, 19h20, l'After Tour.
Christophe Sessieux.
En direct de Malocène, au terme de cette 16e étape du Tour de France, remportée, on vous le rappelle, si vous n'étiez pas au courant encore, par Valentin Paré-Pinte, le premier succès d'étape pour un coureur français. On a évoqué l'avenir de l'équipe Décathlon à G2R, la mondiale future CMA CGM, avec le patron de Dominique Sarriès qui est avec nous il y a quelques instants.
Avec de bonnes infos.
Avec de bonnes infos. Oui, l'info principale, c'est que Paul Sexas devrait participer.
Pourrait.
Pourrait.
C'est encore en réflexion.
Ouais, mais la réflexion.
effectivement,
la saison bien avancé quand même. Il y a une longue saison à finir encore, et oui. puis après, il faudra redémarrer la prochaine. Donc la volonté est présente, mais.
Oui, bien sûr.
On est loin encore.
Ah oui, il faut être en forme. Au départ du Tour de France, comme le disait Jérôme, il faut être à 100%. Donc voilà, en tout cas, il y en a un aujourd'hui qui était à 100%. C'est Valentin Paré-Pinte qui s'est imposé et qui nous a procuré une émotion incroyable. Écoutez, c'était tout à l'heure dans l'Intégral Tour. On s'est un peu déchaîné, c'est normal.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Bonjour à tous et bienvenue sur la route du Tour de France. Oui, vous les entendez, elles sont là, nous les avons retrouvées. Les Cigales de Provence pour cette 16e étape du Tour de France en direction du Mont Ventoux.
Ça y est, on se trouve avec Pimarco dans les toutes premières rampes de ce Mont Ventoux. Ça y est, 15,7 km d'ascension et ça monte direct. C'est impressionnant, c'est un mur tout simplement qui se dresse devant nous.
Arensman, Henrik Maas et Julien Lafilippe, ils ne sont plus que 3 en tête à 15 km de l'arrivée. Est-ce que Julien va réussir à s'accrocher à la roue des deux vrais grimpeurs que sont Arensman et Maas?
12 km dans l'ascension du Ventoux aujourd'hui. Un homme en tête, Henrik Maas.
Attaque de Pogacar!
Attaque de Pogacar! Et bien voilà, on allait dire, il ne faut pas traîner. Et bien l'attaque de Pogacar, attention, parce qu'il n'y a qu'une minute 20 de retard pour Tadej Pogacar. Vingegaard qui lâche un petit peu, 1 mètre, 2 mètres. Est-ce qu'il va tenir? Il s'accroche, il est debout sur ses pédales, Jonas Vingegaard, lui qui a attaqué 2-3 fois Tadej Pogacar. Réussit à revenir dans la roue de Tadej Pogacar. Et juste devant, une minute devant seulement, et bien c'est Valentin Paré-Pinte qui place une attaque, mais tout de suite Benilly saute dans sa roue. 1,1 km encore à parcourir dans ce Mont Ventoux. 400 mètres pour une victoire ici sur le Mont Chauve. Qui va s'imposer? Est-ce que ça sera Benilly? Est-ce que ça sera Valentin Paré-Pinte? Attaque de Benilly, c'est parti. Benilly, le premier à attaquer. Valentin Paré-Pinte est dans la roue de Benilly. Il est toujours à 1 mètre, il est pas loin. Benilly. Attention, Valentin Paré-Pinte, il est encore et dans l'aspiration, il est capable de revenir. Benilly, il est fort, Benilly, il est costaud. Le virage à droite, il le prend bien, il est à la corde. Benilly, l'Irlandais qui va tourner. Valentin Paré-Pinte qui va essayer de rentrer. À droite, il attaque. Valentin Paré-Pinte qui va passer Benilly. Valentin, c'est la fin. Valentin Paré-Pinte, la fin.
Incroyable victoire de Valentin Paré-Pinte, le Français de la formation Tsula Quick-Step qui s'impose ici au Ventoux, l'une des étapes les plus prestigieuses de ce Tour de France pour le jeune coureur de la formation belge. Magnifique succès.
RMC Intégral Tour.
Voilà, ce genre d'émotion, c'est ça qui nous fait aimer le Tour de France.
Ah oui, le sport en général.
Le sport en général, c'est les émotions qu'on vit comme ça. Et quand on est au micro, comme les spectateurs qui étaient sur le bord de la route aujourd'hui, voilà, c'est des émotions incroyables. Et puis pour le coureur, Jérôme, c'est magnifique.
Bah bien sûr, c'est magnifique, mais c'est pour des émotions.
Gagner avant tout.
Exact, c'est des émotions comme ça. C'est pour ça qu'on est là, pour vivre des émotions comme ça. Si on s'embêtait, on serait plus là depuis très longtemps. Et bien sûr, pour Valentin, je pense que même lui, au départ ce matin, s'attendait pas forcément à gagner. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Remco Evenepoel a dû rentrer à la maison. Lui, ça lui a donné des opportunités. Il a pu faire quelques étapes plus tranquilles. Il a eu sa carte aujourd'hui. Et surtout, il marchait très fort. D'une, il marchait très fort. Deux, il a été très malin. Moi, je le connais depuis qu'il est tout petit. Donc, ça m'a particulièrement touché, sa victoire. Et je savais qu'il était capable de faire de grandes choses. Gagner au Mont Ventoux sur son premier Tour de France, j'aurais pas parié dessus, mais bravo. Et je vais juste faire rapidement un petit raccourci avec ce que disait Pierre-Yves tout à l'heure avec Dominique Seriès en disant c'est quoi la marge de progression de Paul Sexas, est-ce qu'il est pas déjà à fond? C'est exactement ce qu'on disait des deux frères Paré-Pinte dans les médias chez nous, c'est ils sont déjà au top en junior, ils auront pas de marge de progression. Regardez les deux la carrière qu'ils font, il y a toujours une marge de progression. Il y a, à part que t'es junior, tu fais 35 000 kilos de vélo par an, t'as déjà tout ce qu'il faut, le capteur de puissance, le bidule, le machin. Non, on disait déjà ça des deux frères Paré-Pinte, et regardez la carrière qu'ils font. Donc bravo à Valentin, il est sorti de sa zone de confort en changeant d'équipe, parce qu'il a fait toute sa... C'est un bébé décathlon à G2R la mondiale, hein, Valentin. Il a pris des risques en allant à l'étranger, ça paye, bravo à lui.
Et dans la bonne équipe.
Il est dans la bonne équipe. Voilà. Toi aussi, tu as eu de l'émotion parce que évidemment, un Français dans une équipe Soudal Quick-Step qui a été la tienne, s'imposer sur une étape du Tour de France, c'est des
alors d'émotion d'abord parce qu'un Français a gagné une étape du Tour et quelle étape. Je veux dire, aujourd'hui, ce soir, Valentin, il va se coucher. Il a gagné une étape du Tour, mais il a en gagné l'étape du Tour du Mont Ventoux. Quoi, c'est ça classe un bonhomme. Il n'y en aura pas 10 comme lui. C'est une performance incroyable. J'imagine l'émotion des parents. Enfin, c'est juste incroyable. Et en plus, dans cette équipe-là, pour moi, évidemment, c'est mon équipe de cœur. C'est je connais bien la maison. Je sais que il est bien accueilli. Je sais que c'est un garçon qui doit forcément vivre des belles émotions, même si il paraît un peu, timide. Dans cette équipe, on va te chercher, on te met en valeur. C'est une équipe qui aime les cyclistes. C'est une équipe qui, quand là je parle du staff, qui aime les coureurs. Et là, évidemment, qu'il a vécu un grand moment et que ce soir, ça va tic et tac. Ils en sont à 4 quand même. Hein.
4 victoires.
Une petite équipe qui ne marche pas trop, c'est pas mal. Hein.
On va y revenir dans un instant. Tu parlais de l'émotion des parents. On a eu le bonheur d'avoir Olivier, le papa d'Aurélien et de Valentin en ligne, juste après la victoire. Jérôme lui a passé un coup de fil. Olivier, tu fais quoi? Tu ne veux pas être en direct sur RMC? On l'a eu. Et derrière, il y a ce moment incroyable. C'est que Kevin Morand est sur la ligne d'arrivée, ça, en train d'interroger Valentin. Et il met le cas sur les oreilles de Valentin et il discute avec son papa. Écoutez ça.
Valentin, bravo mon petit Valentin, bravo. J'ai pleuré.
Oh, c'est incroyable.
J'ai pleuré.
C'est 4 incroyable.
Kilomètres, pleuré. Bravo. Bravo, je vais rentrer.
J'imagine.
Et on va faire avec papy, mamie, on va arroser ça et vraiment bravo.
Ah, profitez bien.
Ouais, je viens de voir samedi matin au départ à Nantua. D'accord.
Ok. On s'appelle ce soir.
On s'appelle tout à l'heure. C'est mieux pour le temps de vie.
Merci. Bisous.
Bravo, mon Kevin. Bravo. Je suis pas fier de toi. C'était immense.
Voilà, l'émotion d'un papa.
Heureusement qu'on l'appelle pas maintenant, Olivier. Je pense qu'il est dans un sale état. Je pense
qu'il est avec papy et mamie.
Ouais, je pense avec papy et mamie. J'espère qu'ils ont bien arrosé ça. Mais on va tirer un coup de chapeau à ses parents. Bien sûr, Olivier, qui est un fou de vélo.
C'est une vraie famille de vélo.
Président du Vélo Club d'Annemasse, organisateur de la classique Annemasse Bellegarde, une des plus grandes courses amateurs, bénévole. Voilà, ils font vraiment énormément de choses autour du vélo. La petite sœur, on va pas l'oublier, qui est nutritionniste et qui vient des fois faire des pige pour l'équipe Décathlon à G2R. C'est vraiment une vraie famille de vélo. Et voilà, quand t'es parent, déjà que si t'as un de tes enfants dans le peloton professionnel, c'est déjà dingue. Quand t'en as deux, c'est encore plus fou. Et quand on a deux au départ du tour, dont un qui gagne une étape, je n'ose pas imaginer Olivier ce soir.
C'est des histoires de famille, le Tour de France, le cyclisme en général. Andy Schleck et son frère Franck, évidemment.
Les frères Yates.
Le grand-père Poulidor avec son petit-fils Mathieu Van Der Poel. C'est des belles histoires, tout ça.
Bien sûr.
D'ailleurs, tiens, tu cites les frères Schleck. Il est fan, Valentin Paré-Pente, des frères Schleck. Dans son enfance, c'était vraiment Contador et les frères Schleck.
Je croyais que c'était. Moi, je suis un peu déçu quand même.
Bah, t'arrivais juste après.
Tu nous as vendu ça au final.
Ouais,
t'étais pas le poster au-dessus du lit, quoi. T'étais le poster à côté de l'armoire.
Dans les toilettes. Pour l'aider le matin.
Bon, on va. Oh non, t'es dégueulasse. On va écouter Valentin Paré-Peintre après la ligne d'arrivée. Évidemment, non, mais. C'est... Allez, on l'écoute.
Attends, je pensais qu'il n'y avait aucune chance pour l'échapper. Donc, j'ai vraiment regardé de loin la bagarre pour l'échapper sans vraiment penser être dedans et encore moins à jouer la victoire. Un gros groupe est parti et j'ai réussi à me glisser dedans un peu, pas par hasard, mais ouais, en suivant une vague et je me suis retrouvé devant. J'ai tout de suite senti que les jambes étaient vraiment super bien. Et dans la dernière montée, c'était difficile tout le long, j'arrivais pas à lâcher Ben Ely. À 3 km, je me suis dit, ok, je connais cette dernière rampe ici après le dernier virage qui est vraiment très très raide et je sais que je peux gagner sur cette pente-là et j'ai attendu l'arrivée. J'ai vu Ilan revenir à 1 km, il a encore roulé jusqu'au sprint et voilà, c'est vraiment une victoire aussi d'équipe.
Sur son vélo, ça bouge un peu de partout, mais finalement c'est efficace.
C'est amusant parce qu'il cite Contador. Contador avait aussi ce côté très haut sur le guidon.
Tu le fais bien aussi.
Tu le fais bien, Contador.
C'est notre ami,
c'est dommage qu'on n'ait pas les vidéos, parce que je pense que les auditeurs apprécieraient énormément ton imitation de Contador.
Surtout dans les bras, plus que dans les jambes.
Ouais, c'est ça.
Bon, alors explique-nous, parle-nous un petit peu de Valentin Paré-Peintre, ce portrait, même si tu vas
sous le contrôle de Jérôme. évidemment. Et je vous disais tout à l'heure en direct, Valentin, pour les Italiens, c'est Brecciola, la miette, parce que il est vraiment très léger, 51 kilos pour 1m76. Si vous comparez par exemple au poids du vélo, c'est 14% de son poids. Donc faut quand même l'emmener le vélo. Valentin Paré-Peintre, il a comme beaucoup de cyclistes grandi dans cet environnement. On le disait du vélo avec Aurélien, son frère est né de 5 ans. Et puis tu le disais aussi, son papa Olivier, président du club d'Annemasse. Il a commencé au vélo club Suze Sionzier. C'est où ça? C'est
côté Cluse Sionzier. C'est bientôt l'heure, c'est pas ma région.
C'est juste à côté d'Annemasse.
Exactement.
Tout petit club. Et puis il a 5-6 ans. Et puis après, il a donc rejoint le club du papa. Et puis un petit peu plus tard, il est rentré dans l'équipe complet développement d'AG2R. Et à 19 ans, au centre de formation de Chambéry, où il est le colocataire de Paul Lapéra et Alex Baudin, qu'on connaît bien, évidemment. Ici, Valentin, il a apparemment l'air très, très méticuleux, mais dans tout ce qu'ils font. Mais la chambre était apparemment pas très, très bien rangée. En revanche, dans la tête, tout est bien organisé. Mieux qu'au Giro, où lors de la victoire d'Aurélien en 2023, les organisateurs lui avaient offert une bouteille de champagne avec l'inscription Valentin. Là, il s'était trompé, mais c'était une prémonition, puisque finalement, Valentin a lui aussi gagné en Italie. L'année dernière, c'est vraiment l'année où il explose, hein, 2024. Je vous disais, fan de Contador, des frères Chac, mais il était aussi très intéressé par les autres sports. Il fait du ski de fond l'hiver, évidemment, puisque la région le permet.
C'est vraiment ton petit frère, quoi.
Peut-être moins sur le foot. Il est fan de l'OL, de l'Olympique Lyonnais, fan de l'époque Juninho.
Je
sais pas si ça marchait bien dans l'équipe avec quand il était avec lui, avec Julien Jourdi, fan de l'AS Saint-Etienne. Il copie et refait en mieux, disait Aurélien, son grand frère. Et il y a parfois aussi des confusions parce que je crois que la photo de la page Wikipédia à une époque, c'était la photo de son frère. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu besoin de la photo finish avec Menili. C'est bien lui qui l'a emporté. Je dirais pas sans problème. Ça a été chaud jusqu'à la fin, mais il a quand même un vélo d'avance, hein, large.
Ouais, son jump a été incroyable. Hein. Son accélération, son dernier kick a été juste époustouflant parce qu'il en a quand même mis dans la montée. Ils se sont mis des belles peignées. On parlait de style. Benili, c'est pas non plus le plus grand styliste. Ça a été très fort.
Non.
Et franchement, chapeau parce que
c'est pas les deux plus beaux sur le vélo.
C'est efficace. Et en plus, il est tombé face à un gars qui avait déjà gagné une étape, qui avait déjà fait des numéros et qui avait le maillot jaune. Et c'est pas évident. On a toujours l'impression qu'ils sont plus forts que nous, donc chapeau à lui.
Ouais. Allez, 19h44, on aura l'occasion de reparler évidemment de Valentin Paré-Peintre qui permet quand même à la France du Tour de France, et bien d'être un peu déchargé de toute la pression qu'elle subissait depuis quelques jours. On va dans un instant évoquer également la bagarre, parce que cette étape a été incroyable, avec à deux échelons différents, la bataille pour la victoire d'étape et la victoire et la bagarre entre Vingegaard et Pogacar, qui sont mis encore une belle peignée aujourd'hui. 19h44, on revient dans un instant pour la suite de l'After Tour de France. À tout de suite.
RMC, 19h20, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Toujours en direct de Malocène au terme de cette 16e étape qui nous a régalé aujourd'hui, l'ascension du Mont Ventoux, la victoire d'un Français dans ce qui est sans doute l'une des étapes les plus prestigieuses du Tour de France. Le Ventoux avec l'Alpe d'Huez, c'est les deux étapes les plus mythiques, non Jérôme?
Ouais, je pense. Alors moi, je suis pas un grand fan de l'Alpe d'Huez, j'aime pas la montée en tant que
l'histoire du Tour de France.
Oui, l'histoire, c'est les 21 lacets, le monde, etc. Mais je trouve que le Ventoux, c'est encore plus mythique parce que c'est tellement lunaire quand tu arrives en haut, etc. Et puis sur ce Tour de France, si j'avais été coureur et que j'avais pris les étapes, si j'avais aimé en gagner une, ça aurait été celle-ci. Là, il n'y a pas photo, quoi.
Ouais. Alors, il y a eu cette incroyable bataille pour la victoire d'étape et donc les quelques secondes qu'ont réussi à garder Paré-Peintre et Benili. Et puis derrière, belle peignée également pour le classement général. Vingegaard l'avait dit, il a tenu ses promesses. Là, franchement, on n'a rien à lui reprocher. Il a montré qu'il était un champion. Il n'est peut-être pas du niveau de Pogacar, mais moi, je dis chapeau bas, monsieur Jonas, ce soir. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec
moi. Tu peux, moi aussi. Franchement, j'ai apprécié le comportement de Jonas Vingegaard et on a vraiment l'impression qu'hier, il a fait le tour de la table. Il dit, bon les gars, qui veut encore croire en moi? Et
les lieutenants,
je pense, se sont dit, ok, on va y aller, on va essayer aussi avec toi. Parce qu'aujourd'hui, ils ont quand même super bien bossé.
Bien travaillé.
Ils ont été bien très collés. Et le plan d'avoir les deux garçons à l'avant,
qui ont servi en plus.
De temps en temps,
il y en avait à l'avant, mais qui ne servaient pas à grand-chose.
Dont Tijbenot, qui a fait un numéro aujourd'hui. Et ça nous donne l'impression qu'il s'est passé des choses hier à cette journée de repos, qu'ils ont finalement fini par croire de ce de ce qu'a avancé Vingegaard, le tour n'est pas fini. Et même si sur le papier, on a vu, Pogacar est encore très très fort. Mais en tout cas, sa réaction d'orgueil et le côté d'avoir su réunir son équipe, c'est quand même un grand coup.
Il manquait quelqu'un à la table, je pense, quand ils ont discuté. Matteo Jorgensen.
Ouais, mais lui, il a plus envie.
Il s'est relevé de bonne heure, mais c'est peut-être pas pour rien que lui, en l'occurrence, n'était pas là, parce qu'il... Ils sont quand même un petit peu en concurrence. Matteo Jorgensen, pas sur ce Tour de France-là, mais à l'avenir. Parce que Matteo Jorgensen vise quand même le classement général des grands tours. Aujourd'hui, c'est quand même le maillon essentiel, normalement, de cette équipe-là autour de Jonas Vingegaard. Ça doit être son dernier lieutenant. On disait qu'il allait peut-être faire top 5 ou top 10. Là, il s'est complètement relevé. Peut-être que c'était voulu parce qu'ils avaient suffisamment mis de pions à l'avant et qu'ils vont le garder pour qu'il essaye de gagner
peut-être
une étape.
Ça peut être ça.
Peut-être
ou
aussi.
Ou alors d'être à nouveau celui qui va amener et donner la possibilité peut-être à Vingegaard de lâcher Pogacar.
Mais on les a suffisamment critiqués.
Je
crois
pas, toi, non, je suis pas en phase avec vous sur ce coup-là, parce que si tu veux renverser le tour et que tu fais un plan global en disant aujourd'hui on va attaquer fort, le mec qui est le plus fort, c'est lui.
Oui, peut-être qu'il est pas bien en fait.
Aujourd'hui,
hein.
c'était peut-être l'étape des Alpes la moins propice pour renverser Tadej Pogacar, si on peut encore espérer le renverser.
Même si Vingegaard avait mis en difficulté Pogacar sur ces mêmes pentes il y a quelques temps.
Ouais, mais c'est juste sur le sommet, voilà, l'étape de la Lose ou de la Plagne, il y a d'autres cols avant où là, Matteo Jorgensen, j'espère qu'il va revenir dans le jeu, qu'il va se remettre à la barre, qu'ils vont tenter des choses, parce que j'ai du mal déjà à voir si Jonas Vingegaard peut renverser Tadej Pogacar, et sans Jorgensen, c'est quasiment impossible. Mais au moins, il tente. On les a assez critiqués, j'étais le premier à les critiquer de leur plan, etc., etc. Aujourd'hui, ils ont très bien couru, ils ont récupéré Kampenaert juste après le Chalet Reynard quand il y avait vent de face. C'était très bien, Tadej Pogacar n'a pas montré de signe de faiblesse, mais au moins ils essayent. Moi, j'aimerais bien que Jonas Vingegaard foute un bordel monstre dans les étapes de montagne, qu'il attaque de très loin. Alors, je ne suis plus dans le peloton, donc certainement que 90% des coureurs ne seront pas d'accord avec moi. Mais j'aimerais bien voir ça. Mais en tout cas, ils tentent. Il ne va pas jusqu'à Paris en sauvant sa deuxième place.
Et ça, c'est bien. On a l'impression quand même que ses jambes sont bien meilleures que ces derniers jours.
Il avait l'air bien aujourd'hui. Ah, franchement, il avait l'air très bien.
Quand Pogacar attaque, cette fois-ci, il arrive à revenir dans la roue après le coup de punch de
Pogacar. Il n'a jamais grimacé aujourd'hui.
Non, il a été très costaud. On l'a même vu temporiser sur le retour sur la deuxième attaque. Il y va et on le voit, il souffle. Il reprend son souffle. Et il bouche le trou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a retrouvé ses jambes. Et dans la déclaration de Pogacar, après la course, on a entendu aussi « Heureusement que je n'avais pas les mêmes jambes qu'à Super Bagnères ». Peut-être que ce jour-là, Vingegaard aurait peut-être dû attaquer beaucoup plus bas. Et on aurait peut-être vu, pour une première dans ce tour, le Slovène perdre du temps. Parce que, résultat des comptes, il y a une belle course. Tout se passe bien, c'était spectaculaire. Mais il a encore perdu du temps.
Deux secondes évidemment. On va rappeler quand même le classement général avec quelques évolutions, notamment pour Kevin Vauclin qui perd une place au classement, mais il s'accroche tous les jours, mais là on se dit qu'avec la Lose et la Plagne le lendemain, ça va être dur de rester dans le top 10. Vous y croyez encore? Ça va le faire. Franchement,
peut-être.
Moi aussi il m'épate, hein, parce que c'est pas la haute montagne.
Rodriguez, le 10e, est à 7 minutes hein, quand même.
Non, il a un petit peu de marge, Kevin Vauclin, sa place, elle est malheureusement, je pense qu'il va encore en perdre parce qu'aujourd'hui, il a montré ses limites, mais c'est fabuleux. Il dit, j'ai jamais monté un col aussi long de ma carrière.
C'est la première fois
qu'il découvrait le Ventoux. Et pour le peu de qualité qu'on lui prêtait de grimpeur et de solide coureur pour les grands tours, le résultat qu'il a fait, parce que le résultat brut, il y avait quand même des coureurs devant aujourd'hui échappés, qui ont attaqué le Ventoux avec 4, 5, 6 minutes de mieux que lui. Le résultat qu'il vient faire là, pour son premier tour, enfin, la première fois qu'il joue le général et cette montée si abrupte, c'est un super résultat. Ce résultat d'aujourd'hui, il doit le mettre en confiance pour les cols des Alpes. Il n'y aura pas plus dur. Il y aura des enchaînements, c'est sûr, mais plus dur, il n'y aura pas.
Et en confiance pour les tours à venir, lui aussi prendre l'expérience.
24 ans, hein, même âge que Valentin Paré-Pinte, le vainqueur du jour.
Exactement. Au classement, donc Tadej Pogacar est toujours devant Vingegaard pour 4 minutes 15. Lipovitz est déjà à 9 minutes 03 et Oscar Hanley à 11.04 devant Roglic à 11.42. On se trouve ensuite Kevin Vauclin qui est donc à 13 minutes 20. Félix Gall est à 14 minutes 50. Donc il a une petite marge sur Félix Gall. Johan Essen, Ben Ili et Carlos Rodriguez complètent ce top 10 devant Jordan Gigat qui est à 23 minutes 10. Il est désormais à un peu plus de 2 minutes 30 de Rodriguez. Guillaume Martin est 13e à 35 minutes 14.
Très bien. Voilà donc pour le classement général qui ne devrait pas évoluer beaucoup demain avec cette 17e étape donc entre Belen et Valence. Alors sur le papier, c'est une étape pour les sprinteurs. Enfin, c'était considéré comme tel. Jérôme, parle-nous un peu de cette étape. Il y a quand même, ça va monter et descendre un petit peu quand même. Hein. C'est pas si simple que ça. Hein.
Oui, c'est pas si simple que ça. 1650 mètres de dénivelé positif, mais c'est la dernière chance pour les sprinteurs. Pour Tim Merlier, pour Jonathan Milan, c'est demain ou jamais. Ensuite, à Paris, on sait que ça sera certainement trop dur. 160 km, c'est une étape assez courte. Et les difficultés, ce qui va avantager un petit peu les sprinteurs, c'est que les difficultés, la principale difficulté au début de l'étape, il y a un sprint intermédiaire, une côte de quatrième catégorie. Il y a la dernière difficulté, la dernière ascension du jour, elle est à 45 km de l'arrivée. Donc, ils ont largement le temps, les équipes de sprinteurs, de contrôler une échappée et de revenir dans le final.
Quel est le nom de cette difficulté ?
La dernière ? Tartegui.
Oui, on dirait le menu de ce soir.
Oui, c'est ça. Donc, dernière chance pour les sprinteurs. On va voir.
Peu d'intervention, Pierre.
De toute façon, dès le départ, on aura tout de suite les équipes Lidl Trek, Soudal Quickstep et Intermarché Wanty qui vont filtrer les échappées. Demain, c'est pour un sprinter.
Demain, donc pour toi c'est pour un sprinter. Je crois que t'es pas d'accord.
Je sais pas que je suis pas d'accord. C'est qu'il y a un deuxième scénario qui peut être ce qu'on a vu depuis deux jours, que ça parte à volo et que la course devienne
incontrôlable.
Mmh. Ça va dépendre, GG, parce qu'on sur le terrain, on sait. C'est des coureurs qui doivent contrôler. Mais dans quel état ils sont, ces coureurs-là ?
J'espère que ces trois équipes, alors j'ai parlé d'Intermarché Wanty pour Guirmay, de Soudal Quickstep pour Merlier ou Lidl Trek pour Milan, c'est leur dernière chance. J'espère qu'ils, s'ils l'ont pas déjà fait, demain matin, ils vont se mettre d'accord tous les trois pour dire on contrôle, on essaye. Attention, par contre, l'arrivée, c'est la ligne droite fait 600 mètres. Il y a un virage à 600 mètres de la ligne d'arrivée.
Et ensuite tout droit.
Mais ça va frotter dur si on arrive au sprint.
On vérifiera bien demain au village départ qu'un certain Johan Brunel n'a pas d'accréditation officielle comme c'était le cas ce matin, ce qui est totalement interdit depuis sa peine.
Qui
l'a été invité par la télévision néerlandaise, enfin belge, flamande, et l'UCI vient de réagir en s'étonnant de la présence de Johan Brunel, l'ancien manager de Lance Armstrong, interdit de toute présence sur les compétitions officielles.
Très bien, nous verrons ça demain. Ça fait marrer, Jérôme.
Non, ça me fait pas rire, non.
Non, je sais, c'est pas tes copains.